Bonjour à tous. Alors, toujours une grâce de venir apporter la parole de Dieu. Hein? On prêche la parole de Dieu et non point la parole d'un homme. Et puis, plusieurs d'entre vous, ça faisait un petit bout qu'on s'était vu avec la saison estivale, les vacances de tous et chacun. Alors, notre pasteur est encore en vacances. On a bien hâte de le revoir. Et puis, voilà. Alors, avant de commencer... On approche la fin de la lettre de Pierre. Hein. C'est vraiment une bénédiction de pouvoir avoir des prédicateurs qui exposent la parole de Dieu dans plusieurs livres de l'Écriture. Et puis, on approche déjà la fin de la première lettre de Pierre. Et aujourd'hui, on va traiter de 1 Pierre 5, versets 1 à 5. Alors, comme introduction, dans l'essence du passage, Pierre s'adresse d'abord aux anciens de l'Église. Il leur demande de prendre soin du troupeau de Dieu. Il leur explique ensuite comment exercer leur autorité. Puis, il se tourne vers les plus jeunes et finalement vers toute l'Église pour appeler chacun à l'humilité. Il touche des points fondamentaux pour la santé de l'Église, comme par exemple, comment les anciens doivent-ils diriger? Comment les membres doivent-ils recevoir cette direction des anciens? Et dernier point, quelle attitude doit caractériser toutes nos relations dans l'Église? Avant d'entrer directement dans l'exposition, dans la lecture et l'exposition des versets, je tiens à dire quelques mots sur le contexte. On voit plusieurs lettres, des fois on oublie et c'est totalement normal. Alors voici un court contexte. Pierre s'adresse d'abord à des croyants dispersés dans plusieurs régions de l'Asie mineure. Ces chrétiens-là vivent toujours dans les villes dans lesquelles ils sont regroupés en église locale, hein, bien sûr. Certains probablement d'origine juive, mais la plupart viennent d'un background, si je peux le dire, si on peut me permettre cet anglicisme-là, d'un background païen, du monde païen. Ils ont abandonné leur ancienne manière de vivre pour suivre Jésus-Christ. Plusieurs vivent, ce n'est pas la majorité, vivent encore dans ces mêmes villes-là, travaillent avec les mêmes personnes et sont soumis aux mêmes autorités qu'ils étaient soumis avant leur conversion. Mais leur appartenance à Christ crée maintenant un décalage avec la société dans laquelle ils s'inscrivent. Leur manière de vivre a changé. Ils ne participent plus aux mêmes excès et refusent certaines pratiques religieuses immorales. Et on peut lire, par exemple, en 1 Pierre 4, que leurs anciens compagnons trouvent étrange qu'ils ne vivent plus comme eux. À cause de cela, ils se font calomnier. Ces croyants reçoivent une opposition dite normale hein, à cause de la foi en Christ. Et c'est justement la fin du chapitre 4 au verset 12, il leur écrit, Pierre, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Il leur rappelle bien évidemment que la souffrance ne devrait pas les étonner puisque Christ lui-même a souffert. Il ajoute par la suite, « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Alors, c'est l'un des grands thèmes de la lettre, la souffrance maintenant, la gloire par la suite. Pierre conclut ensuite par le chapitre 4, par ses paroles, « Ainsi ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. » Alors, l'Église est appelée et rappelée à demeurer fidèle malgré la souffrance. Je vais diviser le texte différemment. Habituellement, on divise en trois sections. Je vais le diviser en deux sections. La première, « Paissez le troupeau de Dieu », versets 1 à 3. Et la deuxième section sera « Notre souverain pasteur, exemple d'humilité », les versets 4 et 5. Alors, avant d'aller plus loin, je vous inviterai à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. On lit en 1 Pierre 5, versets 1 à 5 inclusivement. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Je vous inviterai à vous asseoir. Alors, premier point. Lorsqu'il dit « J'exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux », il aurait pu, l'apôtre Pierre, hein, commencer en insistant sur son autorité apostolique. Il aurait pu dire « Moi, Pierre, l'un des 12 apôtres, choisi personnellement par Jésus-Christ, je vous ordonne de faire ceci ». Il y aurait eu le droit de le dire. Pierre demeure un apôtre du Seigneur malgré tout. Plus encore, il faisait partie même du cercle le plus rapproché de Jésus pendant son ministère sur la terre. Parmi les 12, Pierre est constamment associé à Jacques et à Jean dans les moments les plus importants de la vie du ministère du Christ. C'est avec eux qu'il assiste à la résurrection de la fille de Jaïrus, à la transfiguration sur la montagne et l'un des premiers témoin du tombeau vide. Et on pourrait donner encore là plusieurs autres exemples. Si quelqu'un avait des titres à faire valoir pour rétablir son autorité, c'était bien Pierre. Il possédait une autorité particulière que les anciens des églises locales auxquelles il écrivait ne possédaient pas. Mais lorsqu'il s'adresse aux anciens ici, Pierre insiste premièrement, et c'est ce qui est important, il insiste sur ce qu'il partage avec eux. Il leur dit en quelque sorte, « Je connais votre responsabilité. Le Seigneur m'a également donné la même responsabilité de prendre soin du troupeau de Dieu. Je connais le poids de cette tâche. Je devrais rendre compte au Seigneur, tout comme vous. Nous partageons cette même responsabilité devant Dieu en ce qui a trait au peuple de Dieu que nous devons paître. » Avant même d'aller dans les exhortations pour les anciens, l'apôtre leur manifeste une véritable preuve d'humilité en donnant un très bon exemple. Et c'est qu'un homme de Dieu ne cherche pas à se placer au-dessus des autres. Quoiqu'il possède une grande autorité, il n'a pas besoin d'écraser les autres pour prouver qu'il la possède. Voilà déjà une leçon qui est importante pour toute personne qui aspire à exercer la responsabilité d'ancien. Une personne assurée de l'appel que Dieu lui a donné, confirmée par l'assemblée locale, n'a pas besoin de rappeler constamment son titre aux autres. C'est vrai que l'autorité est ferme, elle doit avertir, corriger, reprendre. On se rappelle ce que Paul demande à Timothée. Mais tout cela dans la douceur et en demeurant proche des personnes qu'ils ont sous leur garde. Les anciens ne sont pas des petits papes qui gouvernent de loin, mais ils sont plutôt des bergers qui sont présents, qui sont fidèles. Le berger est avec les brebis dans la bergerie. Il marche au milieu d'elles. Il prend soin comme le bon berger prend bien soin de nous. Pierre se place à leur côté dans ces six grandes tâches qui leur a été confiées. Hein, il dit « témoin des souffrances de Christ ». Il choisit maintenant dans cette portion-là de la phrase de rappeler qu'il a personnellement vécu et qu'il a vu de ses propres yeux le Christ. Pierre voulait dire, j'étais là, j'ai vu ce qui s'est passé, je peux en parler. Il a connu Jésus, il a marché avec lui, il a vu l'opposition des chefs religieux grandir contre lui au fil du temps. Il était présent à Gethsémané lors de son arrestation. Il l'a suivi jusque dans la cour du grand prêtre. Il a connu de près les souffrances du Christ, même s'il a lui-même faibli et il a renié le Seigneur lorsque l'épreuve est arrivée à lui. Il a été témoin de la vie extraordinaire de Jésus, notre Sauveur. Et on lit à plusieurs reprises dans les Actes que les apôtres sont constamment présentés comme des témoins. Et on lit en Actes 2, 32, « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. » Actes 3, 15. Actes 5, 32, « Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu nous a donné à ceux qui lui obéissent. » Dans le livre des Actes, et on pourrait dire dans le reste de l'Écriture également, être témoin veut dire justement, veut dire deux choses principalement. Avoir vu, puis avoir reçu la mission d'annoncer ce qu'ils ont vu. Et l'on voit aussi, lorsqu'il devait remplacer Judas, l'un des douze qui a trahi Jésus, il fallait d'ailleurs choisir un homme qui avait accompagné Jésus durant son ministère et qui pouvait devenir un apôtre avec les autres apôtres. On lit en Actes 1, 21-22. « Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de vous, il y en ait un qui soit associé comme témoin de sa résurrection. » Les apôtres avaient été choisis par Jésus, formés par Jésus et envoyés par Jésus pour raconter fidèlement ce qu'ils avaient vu et ce qu'ils avaient entendu. L'évangile que Pierre proclame repose sur des événements historiques attestés par ceux qu'ils ont vus et dont lui-même en fait partie. Tertullien, un père de l'Église, plus tard allait aussi dans cette même direction-là lorsqu'il disait que, et je le cite, « L'enseignement véritable doit pouvoir être rattaché à Christ par l'intermédiaire des apôtres qu'il avait personnellement formés et envoyés. » Lorsque Pierre se présente comme témoin des souffrances de Christ, il s'inscrit lui-même, il s'inscrit lui et son exhortation plutôt dans ce fondement-là apostolique. Et c'est pour cette raison-là qu'il écrit à la fin de cette même lettre et de ce même chapitre-là, « C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. » 1 Pierre 5, 12. Alors voyez-vous l'apologie qu'il fait, la défense de la foi véritable. Les apôtres enseignaient partout et défendaient et ont défendu jusqu'à leur mort la véracité de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Le Messie, ce Jésus qui est véritablement venu sauver Israël et non pas juste sauver des Romains, hein, de ceux qui les oppressaient, mais venu sauver de leurs péchés, qui les tenaient sous la colère de Dieu et qui étaient en attente du jugement final et terrible qui pèse sur tout inconverti. Et bien plus que cela, le salut, comme on le dit, va plus loin que les Juifs, mais tous ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur sincère. Toutes les nations sont appelées à leur Dieu et à leur Sauveur. L'exhortation de Pierre, par cette lettre, touche constamment deux points majeurs. Il encourage les croyants et nous aussi à persévérer dans l'épreuve. On est toujours inclus dans les recommandations des apôtres. Et il leur confirme qu'ils ont raison de persévérer puisque leur foi est basée sur des témoins oculaires, sur des témoins véritables. Alors, restons attachés à cette grâce, comme le dit l'apôtre Pierre. en 1 Pierre 5:12, elle est véritable. Le Christ sur lequel elle repose est véritable et il a véritablement fait tout ce que la Bible le dit, ce que la parole de Dieu nous donne dans l'Écriture. Il est mort sur la croix pour nous laver de nos péchés. Il a vécu une vie parfaite en obéissant parfaitement à toute la loi de Dieu pour nous l'imputer, de sorte qu'à cause de Christ, nous sommes déclarés justes. Dieu nous voit à travers du Christ, au travers de sa vie et de sa mort. Il nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. 1 Pierre 1, 3. La dernière section de cette première phrase, participant de la gloire qui doit être manifestée. Alors, dans cette dernière section, Pierre vient un peu équilibrer l'image de la souffrance. Et ce que je veux dire par là, c'est que oui, il y a des souffrances, mais on n'en reste pas là. Les souffrances de la terre, premièrement, toujours, hein, mais équilibrées avec la gloire à venir. Et on pourrait même dire, comme Paul, que ce n'est pas équilibré du tout. Parce que même une vie remplie de souffrances pour l'Évangile, une vie de misère, de prison, de rejet, tout ça, eh bien, on le dit avec Pierre, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Le poids de gloire est tellement lourd comparativement aux souffrances qu'il n'y a même pas d'équilibre dans ce sens-là. Hein? Mais l'équilibre que je parlais vient plus du sens que oui, il y a la souffrance du Christ, mais toujours balancée, toujours en lien avec la gloire glorieuse, majestueuse de notre Seigneur et Sauveur dans les cieux, qui est à venir. La souffrance a le premier mot peut-être, mais elle n'aura jamais le dernier mot. Ce mouvement-là entre souffrance présente et la gloire à venir, on le voit qui traverse toute la lettre de Pierre. On peut lire en 1 Pierre 1, verset 11, « L'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. » Pour un et plus loin, 1 Pierre 1, verset 4, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. 1 Pierre 4, 13. Le berger chrétien suit le même chemin que le berger, le souverain berger céleste. La fidélité dans la souffrance avant la gloire dans les cieux. Il faut se rappeler que lorsque nous sommes sur la terre, et j'espère que personne est dans la lune, hein, la gloire reste toujours à venir. Et c'est précisément ce qui nous encourage, c'est que nous souffrons, nos relations peuvent être difficiles parfois les uns avec les autres, mais la gloire de Dieu sera un jour manifestée. Nous serons transformés comme lui, nos corps mortels et faibles et soumis à la vanité seront transformés en un corps glorieux. Nous serons comme lui, comme le Seigneur. Nous attendons les festins des noces de l'agneau. Et c'est à partir de là, toujours encouragé de ce qui nous attend dans le royaume à venir, que Pierre y va des recommandations pour les bergers. Le commandement central au verset 2, « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. » Après que Pierre ait renié Jésus, il rencontre Jésus après sa résurrection. Trois fois, Jésus lui demande en Jean 21, « M'aimes-tu? » Après que Pierre lui dise « Oui », Jésus de lui répondre « Paie mes agneaux, paie mes brebis. » Pierre transmet aux anciens, comme lui, la même mission qu'il a reçue du Seigneur. Jésus avait confié les brebis, ses brebis à lui, à un Pierre humilié, à un Pierre honteux de ce qu'il venait de faire, de renier le Seigneur de gloire. mais aussi il a confié ses brebis à un Pierre qui était pardonné, à un Pierre qui était restauré. Et Pierre avait découvert qu'il n'était pas aussi fort qu'il le croyait. Hein, le Pierre qui disait à Jésus, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Il a bien eu besoin que le Seigneur vienne l'aider lui-même, le chercher, le relever et le rétablir dans son service pour son Dieu. Les bergers, les anciens, sont eux aussi des brebis que le souverain berger a ramené, a pardonné, qu'il a restauré, comme il l'a fait avec l'apôtre Pierre. Un ancien demeure un pécheur sauvé par grâce. Il dépend du même évangile que tous les autres membres de la communauté. Il prend soin du troupeau de Dieu en se souvenant que Christ a premièrement pris soin de lui. Son ministère prend sa source dans la grâce qu'il a reçue de son Seigneur et dans le mandat qui lui a été confié par le Seigneur Jésus. Bénétreau, un commentateur que vous allez peut-être commencer à connaître, explique que Pierre cherche moins à dresser, ici dans ce passage-là, une liste exhaustive des tâches pastorales qu'à décrire la relation qui doit unir le berger au troupeau de Dieu. On le sait dans la Bible, le berger protège, rassure les brebis. Il les conduit, les nourrit, rassemble celles qui se dispersent, soigne celles qui sont blessées et cherche celles qui se sont égarées. Le psaume 23 présente Dieu comme un berger, le berger parfait. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il conduit son peuple vers des eaux paisibles. Il restaure l'âme des brebis et les accompagne quand ils passent dans la vallée de l'ombre de la mort. Sa houlette et son bâton les rassurent. Le berger biblique, qui est l'image parfaite du Seigneur Jésus, exerce une autorité sur ses brebis. Cette autorité-là, comme on le dit, elle est à la fois ferme, mais toujours bienfaisante. Il sait conduire le troupeau. Le Seigneur marche devant elle, comme on voit en Jean 10, 3. On distingue le chemin, les bergers, les chemins sécuritaires des chemins qui sont dangereux. Il protège les brebis contre ce qui menace leur vie. Il sait exactement, à cause de sa proximité, ce qui les blesse et ils connaissent ce qu'ils ont besoin pour être soignés, pour venir dans leurs besoins. Et cette compréhension-là du berger traverse toute l'histoire biblique. Et on le voit aussi dans Ézéchiel 34, et c'est l'une des clés d'interprétation pour Pierre, ici au verset 22, Ézéchiel 34. Dans ce chapitre-là, Dieu condamne les bergers d'Israël parce qu'ils se nourrissaient eux-mêmes aux dépens du troupeau de Dieu. Et on le lit, « Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. » Les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau de Dieu? Les soi-disant bergers d'Israël, bergers du peuple qui était sous sa garde, utilisaient le peuple de Dieu pour leur propre avantage. Ils laissaient les malades sans soins et les brebis perdues sans secours. Ils gouvernaient avec dureté et avec violence. Ézéchiel leur reproche plus loin dans le passage de manger la graisse, de se vêtir de la laine et d'abattre les bêtes les plus grasses, alors qu'ils auraient dû nourrir, eux, le troupeau du Seigneur. Ils recevaient les bénéfices de leur position sans en assumer les responsabilités. Et même plus, ils prenaient ce qui était censé revenir au peuple et le prenaient pour eux-mêmes. Et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Eh bien, la réponse, les brebis ont été blessées et personne pour les guérir. Elles se sont dispersées, elles se sont devenues la proie des bêtes, elles ont erré sans personne pour les chercher et sans personne pour les ramener dans la bergerie. On peut reconnaître les faux bergers par certains comportements, hein? C'est ce que nous dit la Bible. S'ils utilisent les ressources de l'Église pour eux-mêmes, s'il laisse les personnes vulnérables sans accompagnement spirituel et laisse les brebis faibles s'égarer dans toutes sortes de faux évangiles, dans toutes sortes de doctrines erronées, mais surtout si le berger ne nourrit pas le troupeau de Dieu, s'il ne le rassasie pas de la parole de Dieu, de la manne d'en haut. Si tout ce qui lui est donné du haut de la chair ici, c'est des sermons à dizaines avec des titres du genre « Comment être la meilleure version de soi-même » ou « Jésus, la réponse à tous tes problèmes ». Ils utilisent le Seigneur Jésus à toutes les sauces pour annoncer comme une vie meilleure ici. C'est comme des bonbons, hein? Ça peut être très délicieux sur le moment, mais ils n'ont aucune substance, aucun bienfait nutritif pour le croyant. Ils finissent par pourrir les dents et tout le reste du corps. Ce qui semblait bien délicieux, les bonbons, au premier abord, finit par être la perte de ceux qui s'en nourrissent. Et les faux pasteurs qui donnent ce genre de bonbons-là attirent généralement les foules. Ils se servent des fonds de l'Église pour se nourrir eux-mêmes, tandis que les membres de ces congrégations vivent dans la misère. L'encouragement, c'est que Dieu a dit par la bouche de ses prophètes qu'il viendrait lui-même prendre soin de son peuple. Et on continue encore dans Ézéchiel 34, verset 11. « Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis. » Et plus loin, au verset 16, « Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. » Et il ajoute plus loin, au verset 23, « J'établirai sur elle un seul berger qui les fera paître, mon serviteur David. » On le sait, David était déjà mort depuis plusieurs siècles à ce moment-là, mais ces promesses-là sont venues, annonçaient plutôt la venue du Messie, le véritable David, le véritable fils de David qui prendrait soin du peuple de Dieu. Jésus accomplit cette promesse-là lorsqu'il affirme en Jean 10, « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, 11. La deuxième personne de la Trinité vient parmi nous pour prendre soin de nous, de son peuple délaissé. Plutôt que des sermons bonbons, Jésus, lui, offre sa vie, offre de la nourriture solide. La nourriture qui va nous nourrir véritablement. Il nourrit véritablement son peuple. De la nourriture qui va lui donner de la vigueur spirituelle. Des sermons où la parole de Dieu est prêchée, parce que c'est la parole de Dieu qui donne la vie. Lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsque nous sommes nés d'en haut, c'est les sermons d'en haut qui nous nourrissent, jamais ceux d'en bas. Les sermons d'en bas, hein, les sermons à dizaines, nourrissent les gens du monde qui sont ennemis de Dieu, qui n'ont des yeux et un appétit uniquement pour les choses de ce monde. L'Église appartient à Dieu et chaque croyant a été racheté par le sang précieux de Christ, 1 Pierre 1, 18-19. Les anciens reçoivent un troupeau qui est infiniment précieux. Ils en sont les gardiens, les intendants. Le troupeau demeure la propriété du Seigneur toujours, et chaque responsable exerce une autorité qui lui a été déléguée par celui qui délègue, et celui qui délègue, c'est bien évidemment le grand berger. Le ministère pastoral commence par la proximité. Connaître les personnes, prier pour elles, les nourrir de la parole, écouter leurs difficultés. Les avertir lorsqu'elles s'égarent et les accompagner lorsqu'elles souffrent. Le fait que le troupeau appartienne à Dieu, justement, oriente toutes les motivations des anciens. Ils ne construisent pas leur propre petit royaume sur la terre, mais ils prennent soin du peuple de Dieu qui appartient au Seigneur. Et c'est pour cette raison-là, comme on l'a dit, qu'ils ne donnent pas des bonbons, parce que les bonbons attirent les foules, remplissent les coffres. Les pasteurs, les anciens ne sont pas dans le ministère pour un gain sordide, comme nous dit notre passage. pour utiliser la Bible, pour utiliser le christianisme mélangé avec tout plein d'ingrédients du monde pour le rendre attrayant pour les gens du monde. On ne veut pas une nouvelle recette. On veut toujours la bonne, le bon vieux évangile. Hein? Les nouvelles recettes, les nouveaux évangiles sont avec des odeurs mondaines, sont attirants pour les gens du monde, mais elles ne devraient pas attirer les gens, ceux qui sont véritablement convertis. Le Seigneur nous dit dans sa parole en Jean 10, 4 et 5, « Les brebis ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. » Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Pierre appelle les bergers à avoir les yeux fixés, hein, leur désir fixé sur la personne de Christ, avec des désirs constamment renouvelés par la parole de Dieu. Le texte nous dit « non par contrainte, mais volontairement selon Dieu ». Et c'est impossible de faire si tes inclinaisons, si tes désirs n'ont pas été premièrement transformés et ne sont pas quotidiennement gardés captifs à l'obéissance de Christ. Le faire parce qu'on se sent obligé et qu'on aurait envie de faire autre chose, ce n'est vraiment pas l'esprit de service que Pierre décrit ici. Les anciens doivent le faire parce qu'ils se savent appelés par Dieu à le faire et qu'ils y voient une grande nécessité et qu'ils sont poussés par l'amour pour Dieu et pour le peuple de Dieu. Les bergers servent avec dévouement, avec empressement, avec un cœur disponible à aider ceux qui sont dans le besoin. Il faut dire que les anciens portent souvent des préoccupations que l'Assemblée peut-être ne connaît pas toujours. Ils doivent peut-être prendre des décisions difficiles, recevoir des critiques, accompagner des gens dans des situations douloureuses et continuer de servir malgré tout cela avec patience. Il se peut que les pasteurs soient même découragés parfois. Mais avec l'aide du Seigneur, il continue, il ne plie pas aux tensions mondaines. Il persévère, comme tous les autres chrétiens d'ailleurs. Il persévère dans l'enseignement des apôtres. On pourrait même dire, il persévère dans l'enseignement, hein, de l'enseignement des apôtres. À enseigner l'enseignement des apôtres. Et c'est de cette manière-là que les pasteurs ont appris de plus anciens pasteurs, et eux, des apôtres et des apôtres du Christ. C'est de cette manière-là que ça a toujours fonctionné et c'est de cette manière-là que l'Église continuera de fonctionner. C'est le bon berger qui est le modèle. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Marc 10, 42, 43. Dans l'Église de Dieu, la grandeur prend toujours la forme du service et non pas la forme du tyran. Comme Jésus l'a été pour ses propres apôtres lorsqu'il leur a lavé les pieds, le pasteur ne domine pas sur ceux que le Seigneur lui a confiés. Mais il leur serve, les serve, leur fait du bien. Il est là pour eux. Nous sommes tous appelés à se servir les uns les autres, mais les pasteurs en sont les modèles pour l'Assemblée. Les pasteurs sont les premiers parmi les égaux. Ils occupent une responsabilité particulière dans l'Église, mais ils demeurent des frères parmi des frères, parmi des brebis et des pécheurs sauvés par la même grâce de notre Dieu. Ils ne sont pas dignes par eux-mêmes d'une si grande responsabilité, on le sait bien, un seul est parfaitement digne, Jésus-Christ, le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Mais le Seigneur appelle des hommes faibles, leur fait grâce et les rend capables d'accomplir la charge qu'il leur confie. Et comme le dit Paul en 2 Corinthiens 3, 5, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Les anciens prêchent un évangile qui est infiniment plus grand qu'eux. Ils annoncent un sauveur qui est plus saint qu'eux, plus fidèle qu'eux, plus puissant qu'eux. Et c'est justement pour cette raison-là qu'ils peuvent servir avec humilité. Puisque leur ministère ne repose pas sur leur grandeur, mais sur la grâce et la puissance de leur souverain berger. Dans l'Église, le premier n'est pas celui qui reçoit le plus de services, mais c'est celui qui, à l'exemple du Christ, se place le premier au service des autres. Et maintenant, entrons dans notre deuxième point, notre souverain pasteur, exemple d'humilité, versets 4 et 5. Et je relis ces deux versets. « Et lorsque le souverain pasteur apparaîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et vous tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Et c'est un encouragement de tourner les regards vers le Christ. Aujourd'hui, tout n'est pas visible. Les hommes ne connaissent pas tout ce qui se fait dans le secret. Tous les efforts qu'ils ont faits pour la gloire de Dieu. C'est vrai que lorsque Christ paraîtra, tout sera mis à la lumière, tout sera manifesté. Alors le bien et le mal, tous recevront selon leurs œuvres dans les cieux. Mais Pierre ici veut plutôt encourager les pasteurs concernant leur service à eux, leur service pour le Seigneur. Bénétro, encore une fois, reconnaît qu'il y aura bien, lors de la manifestation de Christ, lors de son deuxième, de son avènement, un face-à-face et une évaluation définitive de chacun des ministères des anciens. Le service des anciens sera alors examiné à la lumière du modèle parfait du souverain berger. Quoique cette évaluation-là soit bien vraie, l'accent du texte n'est pas ici sur le côté négatif de cette évaluation. Son objectif ici à Pierre est plutôt d'encourager les anciens fidèles. Le souverain berger donnera à ceux qui auront bien pris soin de son troupeau, et il leur dit à l'affirmative, « Vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Il croit s'adresser à des chrétiens qui sont fidèles, à des anciens de l'Asie mineure qui prêchent bien l'Évangile du Seigneur Jésus. Et d'après Bénétro, cette expression désigne l'expression « vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire ». Elle désigne plutôt, il le traduit par « une couronne faite de gloire », ce qui veut dire que la gloire constitue en elle-même la récompense des anciens. Christ honorera publiquement ceux qu'ils l'auront suivi dans son ministère, le chemin de fidélité, de service qu'ils ont emprunté à la suite du grand berger. Cette couronne-là, pour les anciens, ne représente pas un salut supérieur que les anciens auraient mérité par leurs œuvres de fidélité. Comme tous les croyants, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, ils sont sauvés uniquement par la grâce de Dieu. Elle représente, cette couronne-là plutôt, vraiment et seulement la reconnaissance particulière dans la gloire du service particulier que le souverain berger leur avait confié. Dans l'Antiquité, une couronne pouvait être remise à un athlète victorieux, à un citoyen honoré ou à une personne reconnue pour le service qu'elle avait rendu à sa communauté. Plusieurs de ces couronnes-là étaient faites de feuilles de laurier, d'olivier, de pin ou de lierre. Elles pouvaient être magnifiques au moment de la remise, où on remettait la couronne sur la tête de cette personne-là, mais elles finissaient par sécher, par perdre son éclat. Les honneurs humains, bien évidemment, ressemblent à ces couronnes-là. Elles durent pour un temps, puis elles disparaissent. La réputation d'un homme est rapidement oubliée. On peut tout penser à des hommes qu'on a connus, aussi fidèles soient-ils, mais déjà, après quelques années, on oublie les hommes. Mais la couronne donnée par Christ, elle, dans la gloire, ne flétrira pas, ne sera pas oubliée. Peter Davids, un autre commentateur, souligne le contraste que fait Pierre entre le gain temporel que les anciens doivent refuser au verset 2, le gain sordide, et la récompense éternelle qu'ils recevront du Christ, la couronne de gloire, au verset 4. Alors, cette opposition-là est importante parce que c'est celui qui s'attend de la couronne du souverain berger n'a pas besoin de s'emparer des récompenses passagères de ce monde pour un gain sordide. Alors, le Seigneur prend plaisir à reconnaître et à récompenser le service qu'il a lui-même rendu possible par sa grâce. Comme l'écrit Paul, notre capacité vient de Dieu. Et l'Épître aux Hébreux ajoute, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Hébreux 6, 10. Il faut le répéter encore, la récompense du Seigneur demeure toujours et entièrement une récompense de grâce. Le Seigneur couronne chez ses serviteurs une fidélité qu'il a lui-même rendue possible. Aucun effort pour le Seigneur n'est en vain. Aucune prière pour un frère ou pour une sœur faite dans le secret, aucune heure consacrée à sa parole, aucun accompagnement fait auprès d'une brebis, aucun sacrifice accompli pour le bien du troupeau ne sera oublié auprès de notre Seigneur. Les hommes peuvent ne pas les voir nécessairement, mais le souverain berger les connaît parfaitement. Et lorsqu'il paraîtra, sa reconnaissance ne se flétrira jamais. Et toujours dans le deuxième point, on arrive maintenant dans le dernier mouvement du texte, celui où Pierre se tourne vers ceux qui sont plus jeunes. Il écrit, « Vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. » Alors, les commentateurs disent que ce n'est pas clair à qui il s'adresse, soit à des jeunes qui sont vraiment plus jeunes en âge, ou simplement des croyants moins matures, plus récents dans la foi en Christ. Il n'est pas nécessaire quand même de résoudre ce problème-là, parce que le principe, la mise en application, demeure la même. Et le principe, c'est que ceux qui vivent sous la direction des anciens doivent reconnaître leurs responsabilités et coopérer avec eux. Pierre utilise le verbe « se soumettre » qu'il a déjà employé dans les chapitres précédents pour différentes relations d'autorité, comme celle, par exemple, du mari envers la femme, de la femme envers son mari, ouais. « Femmes, soyez de même soumises à vos maris », 1 Pierre 3, verset 1. Ne signifie pas qu'une brebis doit accepter un péché ou un abus ou un enseignement contraire à la parole de Dieu sous prétexte que c'est un ancien qui le dit. Christ demeure toujours l'autorité suprême de l'Église. Mais c'est surtout que la fidélité à Christ ne doit pas devenir un prétexte pour refuser l'autorité humaine. On vit dans une culture qui est peut-être très individualiste. Hein, il est facile de penser, personne ne peut me dire quoi faire. J'ai ma Bible et mon opinion, c'est entre moi et Jésus. Si je ne suis pas d'accord, je vais simplement partir. Mais Pierre nous présente plutôt une attitude différente à adopter. Il appelle les croyants à reconnaître l'expérience et la responsabilité de ceux que Dieu a établis pour veiller sur eux. En Hébreux 13, verset 17, on lit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. » puisqu'il y a cette dynamique-là entre des bergers qui doivent paître de la bonne façon le troupeau de Dieu, sachant que Dieu leur redemandera des comptes. Alors, à moins qu'ils soient de faux bergers, hein, comme on l'a mentionné plus haut avec qui prêchent de faux sermons, il est convenable de se placer sous leur autorité et de leur obéir, puisqu'ils ont reçu du Seigneur la responsabilité de veiller sur nos âmes et de nous conduire dans sa parole. Dieu utilise les pasteurs remplis d'expérience et de sagesse pour diriger les plus jeunes dans la foi par des avertissements et des conseils, pour enseigner aussi les rudiments de la parole de Dieu pour ceux qui viennent peut-être tout juste d'arracher aux griffes de l'ennemi. Comme il dit, « Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Tous doivent se revêtir d'humilité. Les anciens dans leur manière de diriger, les plus jeunes dans leur manière de recevoir cette direction-là, et tous les membres dans leur rapport les uns avec les autres. Les responsabilités sont différentes, mais le vêtement est le même pour tous. Le mot traduit par « revêtez-vous » évoque l'idée d'attacher autour de soi un tablier pour le service. L'image nous rappelle naturellement Jésus qui se ceint d'un linge pour laver les pieds de ses disciples. Dans l'Église de Christ, même ceux qui dirigent portent le tablier. Parce que celui qui a perçu les besoins véritables des autres se met à leur disposition, se met à leur service. Celui qui est humble voit donc les besoins des autres et cherche à servir. Il sait écouter. Il reconnaît ses torts. Il utilise ses dons, son expérience pour le bien des frères et des sœurs. Il entre dans une pièce en se demandant « Qui a besoin d'aide? Comment puis-je servir? » Un commentateur mentionnait à juste titre que c'est l'humilité qui produit l'unité dans la maison de Dieu. Elle permet aux anciens de diriger, aux membres de coopérer et à chacun d'occuper sa place sans transformer la vie de l'Église en une lutte de pouvoir. Parce qu'on le sait, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ce passage-là? Premièrement, l'Église appartient au Seigneur Jésus, c'est son troupeau. Les anciens ne sont jamais les propriétaires des brebis, ils sont des bergers placés sous l'autorité du souverain pasteur. Ils doivent donc paître le troupeau à sa manière, à la manière du Seigneur, avec fidélité, avec amour, en nourrissant les brebis de la parole de Dieu et en étant eux-mêmes des modèles de ce qu'ils enseignent. Deuxièmement, le troupeau est appelé à reconnaître cette responsabilité-là qui leur a été donnée du Seigneur. Les membres, les chrétiens ne sont pas appelés à vivre leur foi chacun de leur côté sans jamais recevoir des conseils, des corrections ou des directions de la part des anciens. Dieu prend soin de son Église et l'un de ces moyens-là, c'est en établissant des bergers qui veille sur elle. Et finalement, Pierre ramène tout le monde au même endroit, hein, que ce soit brebis et bergers, tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Les responsabilités, comme on le dit, sont différentes, mais tous sont appelés à l'humilité. Les anciens dirigent avec humilité, les membres reçoivent leur direction avec humilité, les plus jeunes apprennent, sont instruits dans l'humilité, et tous se mettent au service les uns des autres parce que le service est une manifestation de l'humilité. Et nous savons qu'au bout du compte, nous sommes tous ces brebis. Nous avons tous besoin du même berger, nous avons tous besoin de la même grâce et nous attendons le jour où le souverain berger paraîtra dans sa gloire. Amen. Seigneur notre Dieu, nous courbons devant toi car nous savons que tu es le souverain berger. Tu nous enseignes par ta parole des vérités éternelles, des vérités qui sont si grandes. Seigneur, merci de donner à ceux qui enseignent de bien exposer ta parole. Seigneur, Dieu, nous ne voulons pas prêcher une parole d'homme, mais la parole de Dieu, c'est ce qu'elle est véritablement, que le texte vraiment puisse toucher le cœur des frères et des sœurs. Seigneur, notre Dieu, tu désires enseigner ton peuple par ta parole. Seigneur, cette parole-là nous a tous un jour ici amenés du royaume des ténèbres à ton royaume de lumière. Nous a tous fait passer d'ennemis de Dieu à brebis bien-aimés du Seigneur. Seigneur, c'est toi le grand berger, c'est toi le souverain berger qui dirige les bergers. Seigneur, qu'il puisse soit avec les bergers de notre assemblée qui nous dirigent dans les Écritures, qui nous dirigent dans tes voies. Seigneur, donne à ces hommes de la sagesse, de l'instruction, de l'humilité, comme nous l'avons lu aujourd'hui, afin de toujours nous diriger près de toi. Que nous ne soyons pas de ceux qui se détournent de ta parole pour s'attacher à des paroles vaines, des paroles mondaines, désir de s'amuser dans l'Église, Seigneur, mais nous voulons venir avec révérence devant toi, car tu es un grand Dieu qui juge fidèlement tous et chacun, que ce soit les bergers et que ce soit les brebis. Seigneur, nous rendrons compte à Dieu de toutes nos actions, mais merci parce que nous sommes sauvés par grâce. Merci parce que c'est toi qui donnes par grâce d'œuvrer pour toi, de servir les autres pour toi, qui est une marque de l'humilité. Ô notre Dieu, glorifie ton nom, dans nos vies, dans nos familles cette semaine, sois avec nous, parce que tu es un Dieu très grand, un Dieu qui fait du bien par ta parole. C'est en Jésus, Père, que nous prions. Amen.